l'occasion de la mission, prier pour une personne qui s'appelle Daniel, qui est touchée par un cancer généralisé. On s'est mobilisé dans la prière pour cette personne. Et comme elle est venue par l'intermédiaire de Patrice, le mieux, c'est qu'il puisse nous donner des nouvelles de Daniel.
Bonjour à tous. Oui, Seigneur a commencé son œuvre. C'est vrai qu'elle a un cancer généralisé. Donc cette semaine, on a eu des nouvelles. On a eu un beau bouquet de fleurs. On se demandait qui c'est qui l'avait amené. C'était Daniel. Donc elle va faire ses cours. J'ai eu sa fille. Elle m'a dit, depuis son cancer, je ne l'ai jamais vue dans cet état-là. Ça veut dire qu'elle a la joie. Elle a retrouvé le tonus. Attention, c'est un commencement. Je ne dis pas que c'est la guérison. Hein. C'est un commencement. Mais vraiment, elle fait ses courses. On l'a senti reposée. Vraiment, le Seigneur l'a touchée. Et l'a touchée surtout dans son cœur. Parce qu'on lui a passé le DVD, CD, la parole. Elle est venue parce qu'elle croyait qu'elle pouvait ouvrir comme dans les églises catholiques, rentrer comme ça dans l'église. Elle a vu les horaires et vraiment, elle a été touchée par. J'ai discuté avec elle, vraiment Jésus est en train de toucher son cœur. Son corps aussi. Parce que franchement, pour sa fille, ils me disent que je n'ai jamais vu depuis 2-3 ans qu'elle se bat contre le cancer, de l'avoir dans cet état-là. Sainte-Pine Roboser, merci Seigneur, mais il faut se mobiliser parce que c'est un cancer généralisé, complet. On veut la guérison de son âme, naturellement, hein. c'est le primordial, et guérir son corps aussi, parce qu'il y a une grande famille derrière de commerçants sur Angers. C'est une très très grande famille connue, je ne savais pas avant, au départ, et elle est très très connue dans le coin, vraiment. Alors, alléluia, parce que le Seigneur va la guérir, et on va se mobiliser.
Amen. Oui, c'est vrai, on peut vraiment se réjouir de ce que le Seigneur a accompli là dans la vie de Daniel. Et puis, vous vous souvenez aussi qu'on avait eu un retour de ce qui s'était passé à Cholet, puisque la mission avait commencé avec David à Cholet pendant le samedi, et qu'à cette occasion, il y a une personne qui était aveugle, qui était venue. Et on a des nouvelles aussi de cette personne qui s'appelle Dominique. Elle a envoyé un mail par l'intermédiaire du site internet de l'église. Et donc, vous vous souvenez qu'en fait, elle a retrouvé la vue pendant la prédication, pendant que David prêchait. Et là, elle nous dit que ma guérison continue. Bonjour à tous, je viens vous annoncer que ma guérison continue de plus en plus. Je sors pratiquement toute seule. Mon fils ne me tient plus le bras. Je n'ai besoin d'aide que pour traverser la route, monter et descendre le trottoir, pour certains obstacles, aussi pour remplir des documents. J'ai retrouvé une très grande autonomie. Je peux de nouveau coudre, lire la Bible, refaire un peu, mais pas trop quand même, la cuisine et le repassage. Dieu soit loué. Merci Seigneur et merci aussi à tous ceux qui ont prié et qui continuent de prier pour moi. Que Dieu vous bénisse pleinement avec toute votre maison. Que la paix soit avec vous tous. Je vous salue dans l'amour de Dieu avec toute mon amitié fraternelle. Dominique. Voilà, on est vraiment réjouis de voir le Seigneur à l'œuvre aussi dans cette situation. Donc on va continuer de prier hein, pour Daniel et pour Dominique. Et on s'attend à ce qu'il y ait encore d'autres retours et qu'on voit encore Dieu accomplir de grandes et belles choses. Donc je suis très heureux ce matin de vous présenter notre invité, Alain Nisus. Alain Nisus qui a été pasteur à Grenoble dans un premier temps, ou à Versailles d'abord, et puis ensuite à Grenoble. Et puis qui, depuis plusieurs années maintenant, se livre à une autre activité puisqu'il est enseignant. Il est professeur à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, où il enseigne la théologie depuis plusieurs années. Théologie systématique, hein, c'est ça. Et le souci d'Alain Nisus, c'est vraiment de rendre la théologie accessible. Parce que c'est un mot qui, quelquefois, peut faire un peu peur, théologie. En fait, si vous décomposez le mot théologie, hein, il y a deux mots, ça veut dire connaissance de Dieu. On pourrait même traduire par parole de Dieu, parce que le mot logos, il peut avoir autant le sens de connaissance que de parole. Donc la théologie, c'est bien connaître la parole de Dieu et bien connaître Dieu. Et les théologiens, ce ne sont pas tous des personnes qui naviguent dans les sphères célestes très élevées. Et le souci d'Alain Nisus, c'est de rendre aussi la théologie accessible à chacun. C'est vraiment là ce qui guide aussi son activité. Il a publié un livre avec toute une équipe. C'est lui qui a été le responsable de cette équipe, qui est sorti il y a trois ans, je crois, maintenant. Pour une foi réfléchie, c'est le titre. Et le but de cet ouvrage, c'est justement de rendre la théologie accessible à tout le monde, à toutes les générations. Et donc voilà, c'est un livre qui a été publié il y a 2-3 ans, qui est vraiment très accessible et qui rend accessible tous les grands thèmes de la Bible. Alors, il y a même des dessins dedans, hein. Il y a des illustrations, hein. Donc c'est vraiment dans le but que chacun puisse bien comprendre ce qu'il croit. Je crois que c'est important de bien comprendre ce que l'on croit. Et je pense que ce matin, au travers du ministère d'Alain Isus, on va pouvoir là avoir un enseignement qui va nous permettre de bien comprendre ce que l'on croit. Donc je vais lui laisser toute la place maintenant, que vraiment tu puisses te sentir libre au milieu de nous.
Bonjour mes frères et sœurs, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin, heureux de vivre ce culte avec vous. Le Seigneur me bénit, et j'ai été vraiment édifié d'entendre ce témoignage de guérison, de voir que le Seigneur est à l'œuvre et il faut persévérer dans la foi et continuer à croire au Seigneur. Merci donc au pasteur de m'avoir invité pour vivre cette journée avec vous. J'aimerais ce matin vous parler du thème de l'espérance. Vous savez que dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous parle de trois grandes vertus chrétiennes et nous dit « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Nous parlons beaucoup d'amour dans nos églises et nous avons raison de le faire. Il suffit de lire 1 Corinthiens 13 pour s'en convaincre. L'apôtre Paul nous dit que l'amour, c'est la chose la plus importante. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Sans l'amour, tous nos discours sonnent creux. Et c'est pourquoi nous avons raison de parler d'amour. Nous avons raison de dire ce qu'est l'amour et aussi ce que n'est pas l'amour. Parce que parfois, malheureusement, au nom de l'amour, on peut essayer de tout justifier et faire n'importe quoi. Nous devons parler de l'amour et nous devons surtout nous efforcer de vivre l'amour tel que Dieu nous le demande. Dans nos églises, nous parlons aussi de la foi et nous avons raison de le faire puisque la foi, c'est l'abandon total à Dieu pour son salut, pour sa vie entière. La foi, c'est la confiance que nous faisons à Dieu. La foi, c'est la juste attitude d'une créature devant son Créateur. Et c'est vraiment cette relation que nous devons cultiver envers Dieu. Relation de confiance, relation d'abandon. Et c'est vrai que notre ennemi, le tentateur, s'efforce de nous décourager. Il nous décourage de placer notre confiance en Dieu. Et le diable essaie de nous faire croire que ça ne sert à rien de croire en Dieu. Ou il essaie de nous dire qu'avec Dieu, les choses ne vont pas assez vite. Et parfois, dans la vie, nous sommes confrontés à des épreuves, à des difficultés qui sont de véritables défis, des défis pour notre foi. Et pour affronter ces défis, il nous faut une foi ferme, une foi bien enracinée, une foi bien ancrée en Dieu. Et il faut toujours se rappeler que la foi est un combat. Vous savez qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Donc il faut garder la foi, il faut sans cesse nourrir notre foi, sans cesse alimenter notre foi et sans cesse cultiver cette foi. Donc vous voyez, nous avons raison de parler de l'amour, nous avons raison de parler de la foi. Mais peut-être que nous ne parlons pas assez de l'espérance. Cette troisième chose que l'apôtre Paul cite. Et c'est pourquoi j'ai choisi, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler de l'espérance. Et pour vous parler de l'espérance, il y a deux textes que je voudrais lire avec vous. Deux textes de l'apôtre Paul. Le premier, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, je lis verset 12, Éphésiens 2, 12, l'apôtre Paul écrit « En ce temps-là, vous étiez sans Christ, c'est-à-dire sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu selon sa promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Retenez la formule, hein, vous étiez sans Dieu et sans espérance dans le monde. Le deuxième texte que je voudrais lire avec vous, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » Ou dans d'autres versions, il est dit « afin que vous ne pleuriez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » L'apôtre Paul émet un jugement sur les païens qui, à première vue, pourraient nous paraître quelque peu contestables et peut-être même un peu arrogants. L'apôtre Paul définit les païens comme des personnes sans espérance. Il écrit à des païens devenus chrétiens autrefois, c'est-à-dire avant votre conversion à Jésus-Christ, vous étiez sans Dieu et sans espérance dans le monde. Et en 1 Thessaloniciens 4, verset 13, Paul encourage des chrétiens qui ont perdu des êtres chers, il les encourage en disant « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Bien sûr, l'apôtre Paul ne leur interdit pas de pleurer. On ne peut pas ne pas pleurer devant la séparation et la souffrance que cause la mort d'un être qu'on aime. Mais l'apôtre Paul leur dit « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » C'est-à-dire, ne pleurez pas avec le désespoir de ceux qui n'ont pas espérance. Ne pleurez pas avec le désespoir de ceux qui ont tout misé sur cette vie et qui n'ont pas de perspective pour l'au-delà, pour après cette vie. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul définit ceux qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus-Christ, il les définit comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors, certaines personnes pourraient dire, mais comment l'apôtre Paul peut-il dire pareille chose? Est-ce qu'on ne va pas lui dire, mais Paul, tu ne sais pas que l'espoir fait vivre? Est-ce que tu ne sais pas que l'homme ne peut pas vivre sans espérer? Et c'est vrai que l'homme ne peut pas vivre sans espérance, parce que sinon, il n'aurait qu'à se suicider. Et qu'est-ce que le suicide, finalement, sinon l'acte de celui qui a totalement désespéré de la vie et qui pense que la vie ne mérite plus d'être vécue? Vous savez, les questions du suicide et plus fondamentalement du sens de la vie, ce sont des questions très sérieuses. Et il y a un penseur français, un philosophe français qui s'appelait Albert Camus. Et Albert Camus a eu une immense audience en son temps. C'est quelqu'un que les gens lisaient beaucoup. Et Albert Camus a beaucoup réfléchi sur le thème du suicide et sur l'absurde de la vie. Il n'était pas croyant et il pensait que la vie était absurde, qu'elle n'avait pas de sens. Et Camus a profondément médité sur un mythe que les Grecs racontaient, vous savez, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a très longtemps, un mythe qu'on appelle le mythe de Sisyphe. Et dans ce mythe, cette histoire, Sisyphe, c'était un personnage qui a été condamné à pousser un gros caillou jusqu'au sommet d'une montagne. Donc, il poussait son caillou au sommet de la montagne, et une fois qu'il était arrivé au sommet de la montagne avec le caillou, hop, le caillou dégringolait sur l'autre versant. Il était obligé de recommencer sans cesse et sans cesse et sans cesse de pousser son caillou le sommet de la montagne. Et beaucoup de personnes, en méditant sur ce mythe et sur le sens de la vie, ont fini par affirmer que, mais finalement, la seule question philosophique vraiment qui soit pertinente, c'est celle du suicide, celle du sens de la vie. Et beaucoup de personnes à partir de ce mythe, ont vu une sorte d'image, une sorte de métaphore de la vie. Et pour ces personnes, dans la vie, nous entretenons beaucoup d'espoirs, mais qui sont finalement illusoires. On poursuit avec persévérance des buts mais qui finalement sont inutiles, qui sont vains, qui n'ont pas vraiment de sens. Chaque matin, nous nous levons. Mais pourquoi ? On va au boulot. Mais pourquoi ? On fait des enfants. On élève des enfants. Mais pourquoi fait-on tout cela ? Quel sens tout cela a-t-il ? Pourquoi vivre finalement ? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser ce genre de questions sur le sens de la vie. Et les penseurs de l'Antiquité, ceux du temps de l'apôtre Paul, eux aussi, ils s'étaient posé ces questions. Et il y avait des philosophes grecs qu'on appelait les stoïciens. Et vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, on nous dit que l'apôtre Paul a eu l'occasion de prêcher l'évangile devant des philosophes épicuriens et stoïciens. Vous pourrez lire ça en Actes 17. Donc, les stoïciens, qui étaient les philosophes les plus influents du temps de l'apôtre Paul, eux, ils se méfiaient de l'espérance. Ils considéraient que l'espérance, c'était une passion qui ne pouvait provoquer que frustration, que déception, que désespoir. Et pour ces stoïciens, ces philosophes du temps de l'apôtre Paul, il fallait vivre, mais de manière dépassionnée. Et pour eux, il ne fallait pas trop en demander à la vie. Il faut vivre, mais sans trop attendre de la vie. Pour eux, il ne fallait pas vivre avec trop d'espérance. Et il fallait cultiver, et c'est ce que dit encore aujourd'hui un philosophe que beaucoup de gens lisent, qui écrit beaucoup de livres de vulgarisation, il s'appelle André Comte-Sponville, et il se définit comme un nouveau stoïcien, André Comte-Sponville. Il dit qu'il faut cultiver ce qu'il appelle le désespoir. Non pas le désespoir, mais le désespoir. Et pour lui, le désespoir, c'est le fait de vivre, mais sans espoir, sans espérance, en n'attendant pas trop de la vie, en ne mettant pas trop d'espérance dans l'avenir et dans la vie. Parce que pour lui, la meilleure façon de ne pas être déçu, la meilleure façon de ne pas être frustré, eh bien, c'est de vivre sans trop en demander à la vie, sans trop espérer. Donc, vous voyez, je vous disais que d'une manière générale, l'espérance n'avait pas bonne presse au temps de l'apôtre Paul chez les philosophes grecs et chez ses contemporains, puisque l'espérance était conçue comme une passion qui aveuglait le cœur de l'homme et qui amenait nécessairement la frustration. Et c'est pourquoi, sur les tombes de l'époque de l'apôtre Paul, on trouvait souvent comme épitaphe, vous savez, c'est la petite phrase que les gens écrivent sur leur tombe. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à votre épitaphe, la phrase que vous mettrez, à Dieu seul soit la gloire, merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée, je suppose. Mais en tout cas, les gens du temps de l'apôtre Paul mettaient sur les tombes souvent une phrase qu'on a souvent remarquée, c'était « Je n'étais pas, je suis devenu, je ne suis plus, cela ne fait rien. » J'étais pas, je suis devenu, je suis plus, ça fait rien. Donc vous voyez que beaucoup de personnes, au temps de l'apôtre Paul, étaient très réservées sur la notion d'espérance. L'espérance n'était pas pour eux une valeur, ce n'était pas une vertu. Et cela nous permet de comprendre pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à ces païens devenus chrétiens, vous étiez sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ils étaient sans espérance précisément parce qu'ils ne tenaient pas l'espérance en très haute estime. Ça, c'était du temps de l'apôtre Paul. Mais vous allez me dire, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, je pense qu'on peut dire la même chose. On peut dire que nos contemporains, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, eh bien, eux aussi, ils sont en mal d'espérance. Ils sont désillusionnés. Ils ne croient plus au progrès de la science, au progrès de la technique. Vous savez, au 19e, 20e siècle, la science a fait des progrès énormes et les gens étaient persuadés que la science nous rendrait heureux, que la science ferait notre bonheur. Et les gens avaient mis une formidable espérance dans la science, dans les progrès scientifiques, les progrès techniques. Mais aujourd'hui, on se rend compte de deux choses. Premièrement, la science ne nous donne pas le sens de la vie, ni la technique. On est content d'utiliser, bien sûr, les progrès techniques. C'est bien, ça apporte un certain confort, mais ce n'est pas ce qui va vous donner le sens de votre vie. Et deuxièmement, on s'est rendu compte que la science amène aussi des problèmes éthiques aussi auxquels nous sommes confrontés avec ces problèmes, ces progrès de la science. Donc aujourd'hui, on est quelque peu désillusionné des progrès de la science. On ne croit plus non plus de nos jours aux grandes utopies, aux grandes idéologies. Et on parle de plus en plus de crise des idéologies. Et vous savez que de nos jours, il y a un très grand vide idéologique, surtout après la chute du communisme. Vous savez que beaucoup d'hommes et de femmes avaient placé une formidable espérance dans le communisme. Parce que le communisme promettait une société tout à fait nouvelle, une société sans classe, une société sans injustice sociale. Les communistes pensaient qu'ils auraient créé l'homme nouveau. Mais la chute du communisme a créé un vide idéologique sans précédent. De nos jours, on ne croit plus non plus à la politique. On sait que les politiques déçoivent. On sait que les hommes politiques font des promesses pour se faire élire. Mais ils font des promesses qu'ils ne sont pas en mesure de tenir. Mais surtout, ces hommes politiques, ils ont tendance à minimiser la dureté du cœur de l'homme. Ils ont tendance à minimiser la méchanceté de l'homme. Ils ont tendance à croire en la bonté naturelle de l'homme. Et ils ont tendance à croire qu'il suffit de faire voter une loi bonne pour que ça change la société. Mais ils minimisent le péché, la réalité du péché de l'homme. On ne croit plus aux promesses des politiques. Alors, c'est vrai qu'il y a le sport. Le sport, ça fait rêver pendant un moment, mais quand on voit toute la corruption qui est attachée au sport, au monde du sport, l'argent qui circule dans ce milieu et la violence de certains supporters, on se dit que, décidément, il ne faut pas tout miser là-dessus. Non, frères et sœurs, nous sommes, et il faut le réaliser, nous sommes dans un monde en crise d'espérance. Et une étude lucide de notre monde le révèle. Nous sommes dans des sociétés que le psychanalyste Tony Anatrella décrit comme des sociétés dépressives. Nous sommes dans des sociétés dépressives. Et ces sociétés dépressives ne peuvent que générer, susciter de la dépression. Et pourtant, l'homme ne peut pas vivre sans espérer. Donc la vraie question qu'il faut se poser est la suivante. Y a-t-il dans ce monde une espérance qui ne déçoive pas? Y a-t-il une espérance qui ne déçoive pas? Que nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit qu'il n'y a d'espérance vraie. Il n'y a d'espérance avec un E majuscule, si vous voulez, que si nous laissons Dieu, notre Créateur, nous illuminer, nous éclairer, donner sens à notre vie. Et c'est dans la mesure où notre vie a été éclairée par la lumière de Dieu, eh bien c'est dans cette mesure seulement que nous pourrons trouver un sens véritable à notre vie et avoir une espérance qui ne déçoit pas. Pour l'apôtre Paul, si Dieu n'a pas sa place dans notre vie, toutes les autres espérances que nous avons, les espérances avec des petites E, eh bien, ce sont des espérances qui seront soit trompeuses, soit illusoires, ou soit de petits espoirs. Et ça, c'est le message de toute la Bible. Les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, ils ne cessent de critiquer les vains espoirs, les espérances illusoires que l'on place dans les hommes, dans les armes, dans la force, dans l'intelligence humaine et non en Dieu. Comme dit le psalmiste, aux uns leurs chars de guerre, aux autres leurs chevaux. Mais nous, nous plaçons notre confiance dans le Dieu vivant. Pour l'apôtre Paul, il n'y a d'espérance vraie que si le Dieu de Jésus-Christ a trouvé sa place dans notre vie, pour lui donner sens, pour l'éclairer, pour l'illuminer et pour donner sens à nos espérances. L'espérance chrétienne est la seule à être solide, indéfectible, parce qu'elle repose sur Dieu qui est le rocher des siècles. Vous savez, on trouve souvent cette image dans la Bible. Dieu est comparé à un rocher. Dieu est un rocher. Ça veut dire que Dieu est solide. Dieu est stable. C'est du solide, c'est du dur, Dieu. On peut construire dessus. Et on sait qu'on ne sera jamais déçu. On peut bâtir sa vie sur Dieu. On peut construire sa vie sur Dieu parce que Dieu ne ment pas. Il est le Dieu de l'avenir. Il est le Dieu qui tient, lui, ses promesses. Il tient ses promesses en son temps, mais il les tient. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire en Romains chapitre 5, verset 5, avec une grande assurance, il pouvait écrire « L'espérance ne déçoit pas ». L'espérance ne déçoit pas dans la mesure où c'est en Dieu qu'on espère. Dieu qui est solide, sûr, qui n'est pas un homme pour mentir ou pour nous décevoir. Ailleurs encore, en 1 Timothée 4, 10, l'apôtre Paul écrit « Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. » Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que ce qui peut nous motiver dans notre travail, ce qui peut nous motiver dans notre lutte, dans notre labeur quotidien, dans nos combats, eh bien, c'est notre espérance. Si on peut courageusement reprendre le travail, si on peut courageusement chercher du travail, si on est au chômage, si on peut courageusement élever des enfants, bien c'est parce qu'on a mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu de l'avenir. Vous comprenez donc, frères et sœurs, que c'est notre espérance qui doit être la source de tous nos efforts, le moteur de notre vie, ce qui nous met en branle. L'espérance pour l'apôtre Paul, remarquez, puisqu'il dit « nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant », cela montre que pour lui, l'espérance, ce n'est pas seulement l'attente du paradis, l'attente de la consolation céleste, c'est aussi ça, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Mais l'espérance pour l'apôtre Paul, c'est ce qui nous aide dans le quotidien, dans nos luttes quotidiennes, et c'est ce qui nous aide aussi à lutter contre toutes les souffrances, contre toutes les injustices, bref, contre tout ce qui s'oppose au projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est le projet de salut pour l'humanité. Donc, vous voyez que c'est notre espérance qui doit être le moteur, qui nous motive dans tous les combats que nous menons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance chrétienne va aussi inclure une dimension critique vis-à-vis des espérances de l'humanité. Et l'espérance chrétienne va s'opposer aux idoles de ce monde. L'espérance chrétienne est une force de contestation, une force de protestation. C'est au nom même de l'espérance que nous sommes appelés à nous engager, à agir et à lutter. Un chrétien vraiment habité de l'espérance, eh bien, il ne se contentera pas de regarder le monde aller à la déconfiture en disant « Oh là là, ça va mal, ça va mal, ça va de mal en pis ». Non. Un chrétien habité de l'espérance va s'engager précisément au nom de son espérance, non pas au nom de valeurs, de vagues valeurs humanistes, mais au nom de son espérance, au nom du Dieu de l'espérance. Et finalement, c'est ça le message du livre de l'Apocalypse. Contrairement à ce que l'on pense, l'Apocalypse est un livre rempli d'espérance. Car c'est un livre qui essaie de nous faire entrevoir le sens qu'il y a derrière le chaos apparent de notre monde. Quand on regarde le monde, on a l'impression qu'il y a un chaos, un désordre immense. Et la révélation que l'apôtre Jean a eue, c'est de comprendre qu'il y a un trône dans le ciel. Vous savez, quand on nous dit que l'une des premières paroles au chapitre 4, on dit... Quand il a commencé à voir la vision, la première chose qu'il voit, un trône dans le ciel. Il y a un trône dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a un roi quelque part. Et ce roi, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui domine le monde. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours la manière dont le plan de Dieu se déroule. On ne comprend pas toujours la manière d'agir de Dieu. Dieu restera toujours pour nous un mystère. Mais l'Apocalypse nous dit que derrière le mal qu'il y a dans ce monde, eh bien, il y a un Dieu qui règne. Et mystérieusement, secrètement, mais souverainement, c'est son plan. C'est son plan pour l'humanité qui se déroule. Mais l'Apocalypse nous révèle aussi qu'il y a du mal dans le monde. Il y a le péché dans le monde. Et le mal existe concrètement dans le cœur de l'homme. Et non seulement le mal existe dans le cœur de l'homme, mais le mal s'incarne aussi dans certains systèmes. Dans des systèmes de ce monde, soit des systèmes politiques, soit dans des systèmes économiques, soit dans des systèmes sociaux, culturels. Et l'Apocalypse nous permet d'identifier les différentes formes que peut revêtir le mal aujourd'hui. Par exemple, au chapitre 17 et au chapitre 18, vous avez la fameuse prostituée de Babylone. Et cette prostituée de Babylone représente l'Empire romain, qui était la superpuissance politique de ce temps. Et la spécialité de cet empire, c'était la corruption des rois, la corruption des marchands. Et le message du livre de l'Apocalypse, c'est de nous dire que finalement, cette superpuissance oppressive, cette superpuissance corruptrice, eh bien, elle sera détruite. Ce n'est pas elle qui aura le dernier mot. Et vous voyez que cette condamnation du mal dans le livre de l'Apocalypse, elle n'est pas restreinte à l'Empire romain, mais elle s'étend à tous les systèmes politiques mauvais, corrupteurs, oppresseurs. Le message du livre de l'Apocalypse nous dit « Le projet de Dieu triomphera ». Et ce n'est pas ces systèmes qui auront le dernier mot. Tout ce qui s'oppose au projet de Dieu, toutes ces superpuissances connaîtront le sort de la Babylone de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, les croyants qui sont minoritaires, qui sont aussi persécutés, on les encourage à persévérer. Et on leur dit, faites attention pour ne pas recevoir la marque de la bête. Et on peut recevoir la marque de la bête, au chapitre 14, verset 9 de l'Apocalypse, soit sur le front, soit sur la main. Vous savez que le front, ça symbolise la pensée, la mentalité, l'esprit, l'intelligence. Et autrement dit, recevoir la marque de la bête sur le front, ça peut symboliser le fait de ne pas vous laisser mouler par la mentalité de ce système, par l'esprit de ce système. Et ne recevez pas la marque de la bête sur votre main. Vous savez que la main symbolise l'action, donc la manière concrète d'agir. Et qu'est-ce que l'Apocalypse veut nous dire par ce message? Eh bien, n'ayez pas la mentalité de ce monde, ne vous conformez pas à l'esprit de ce monde, recevant la marque sur votre front, et n'agissez pas, ne faites pas comme ces systèmes d'aujourd'hui, en ne recevant pas la marque sur votre main. Donc, l'Apocalypse nous dit « faites attention ». Mais l'Apocalypse nous dit qu'il y a l'espérance. Et l'espérance, c'est que Dieu interviendra souverainement dans la création, dans l'histoire. Il détruira tous ces systèmes mauvais, injustes. Il éradiquera à tout jamais le mal dans sa création. Et il y aura une restauration de la création dans sa bonté originelle. On remarquera que la dernière parole du livre de l'Apocalypse, c'est Dieu qui nous dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est ça notre espérance. Et posséder une telle espérance doit nous rendre disponibles pour témoigner à nos contemporains, par nos paroles, par nos actes, eh bien, cette espérance que Dieu nous donne. Mais revenons à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il dit que les païens sont sans espérance, je l'ai dit, il parle de l'espérance avec un E majuscule. Nous avons déjà remarqué que notre époque présente énormément de ressemblances avec celle de l'apôtre Paul, la période pendant laquelle la foi chrétienne a émergé. Ce qui montre, frères et sœurs, que le message de l'Évangile est plus que jamais pertinent. Alors, c'est vrai que dans les médias, chez certains intellectuels, on essaie de nous faire croire que le message de l'Évangile s'est démodé. Certains essaient de nous faire croire que le message de l'Évangile ou la morale chrétienne, c'est ringard, c'est dépassé, qu'il faut être progressiste. C'est ça le grand mot aujourd'hui, il faut être progressiste, progressiste en matière de mœurs, en matière de sexualité. Mes frères et sœurs, il ne faut pas se laisser impressionner par ce genre de discours. L'Évangile est plus que jamais pertinent aujourd'hui. N'ayons pas honte de l'Évangile. N'ayons pas honte de l'Évangile. C'est le message dont nos contemporains ont le plus besoin. Soyons-en sûrs, soyons-en convaincus. Parce que le message de l'Évangile, c'est un message de pardon. Le message, non pas un message de déculpabilisation à bon marché, mais un message de pardon. Non pas un message d'excuse. Hein, Dieu n'excuse pas nos péchés, il nous pardonne. Ce n'est pas la même chose. Donc le message de l'Évangile est un message de pardon. C'est un message de salut. C'est un message d'espérance. Donc n'ayons pas honte de ce message-là. Notre époque, je vous le disais, est caractérisée par la désillusion. Nos contemporains sont en mal d'espérance et ils sont habités par beaucoup de peur, par beaucoup d'angoisse. La peur de la crise économique et les conséquences qu'elle peut impliquer au niveau du chômage, au niveau de l'emploi. La peur d'une crise écologique causée par la pollution, le réchauffement climatique. La peur du terrorisme et des conséquences du conflit israélo-palestinien. Les hommes d'aujourd'hui sont habités par des peurs. Et à cet homme moderne, désillusionné, rempli de peur et d'angoisse, je crois véritablement que notre rôle à nous chrétiens, c'est de rappeler qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est le Dieu de l'avenir, le Dieu de l'espérance. Notre rôle, c'est de dire, oui, que nous sommes aimés de Dieu et qu'il existe une véritable espérance, une espérance avec un E majuscule qui n'a rien à voir avec les petits espoirs de nos contemporains. Et cette espérance a un nom, Jésus-Christ. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, verset 12, Jésus dit une phrase forte, et chaque fois que je réentends cette phrase, ça me donne la chair de poule. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que Jésus est en train de nous dire qu'il est celui qui est capable de nous éclairer, de nous illuminer. C'est lui qui peut donner un sens profond à notre vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il aura trouvé le sens fondamental de sa vie. Il arrêta et il arrêtera de divaguer, il arrêtera d'errer. Il n'aura plus besoin de fuir dans des drogues, de fuir dans une sexualité débridée, de fuir dans plein de spiritualité, de substitution. Mais il aura trouvé le vrai sens de sa vie. Il aura trouvé repère. Il aura trouvé un père. Et le père, vous savez, c'est lui qui donne des repères. Hein, ce n'est pas pour rien que dans le mot repère, il y a le mot père. Hein, le père qui donne des repères pour notre vie. Celui qui trouvera le Christ aura trouvé des repères, mais des structures pour sa vie. Il aura trouvé un sens. Oui, frères et sœurs, Jésus est vraiment la lumière qui veut nous éclairer, qui peut nous éclairer. Il peut apporter sens et espérance. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas transformer la foi en une drogue, en une nouvelle drogue. On ne peut pas se shooter à la foi. Celui qui met sa foi en Christ ça ne signifie pas qu'il vit de manière magique. La foi n'est pas une fuite. La foi n'est pas une drogue comme les autres. La foi ne nous délivre pas de la condition humaine. Mais, découvrir le Christ comme lumière signifie que cela nous débarrasse de l'absurde de la vie. Servir Dieu et le découvrir comme la lumière qui éclaire notre vie, voilà un sens suffisamment mobilisateur, enthousiasmant et fécond pour une vie. Et je le dis très sincèrement aux jeunes, aux adolescents qui se posent peut-être parfois des questions sur le sens de la vie, je dis, il n'y a pas plus belle chose et chose plus motivante que de servir Dieu et de mener le combat de la foi. Oui, frères et sœurs, le Christ est la lumière qui peut nous éclairer, il peut donner sens à notre vie. Et quand nous découvrons Dieu, nous découvrons un Père qui nous donne des repères. Et quand nous découvrons la foi, Dieu nous aide dans nos difficultés. Nous découvrons une famille, l'Église qui prie pour nous, qui nous aide dans notre combat. Dieu n'est pas un magicien, bien sûr, qui répond comme si nous étions des enfants gâtés, non. Mais Dieu est le Père qui nous aime, qui nous accompagne, qui répond à nos prières. Et parfois, dans sa sagesse et son mystère, il répond peut-être pas comme nous l'aurions toujours voulu. Mais une chose est sûre, nous avons la certitude de son amour et de son soutien. Alors peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore totalement été éclairées par le Christ. Mais Christ nous propose de nous éclairer. Je suis la lumière du monde. Mais vous savez, la lumière qu'est Jésus-Christ n'est pas une lumière tape à l'œil. Il y a des lumières qui sont tape à l'œil. Ce n'est pas une lumière qui nous éblouit. Mais c'est une lumière qui nous éclaire. Et c'est pourquoi Jésus ne s'impose pas, mais se propose à notre foi. Pour être éclairé par le Christ, pour recevoir de lui le sens de notre vie, pour avoir l'espérance véritable qu'il nous donne, il faut un acte de foi. Et nul ne peut faire cet acte de foi à votre place. Il faut croire personnellement en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ signifie entrer dans l'espérance qu'il donne. Alors peut-être que beaucoup parmi nous ont déjà été éclairés par cette lumière du Christ. Alors deux choses que je voudrais dire pour terminer. Un, persévérer, frères et sœurs. La persévérance fait partie aussi de notre combat. Persévérer et apprenons à toujours redécouvrir sans cesse et sans cesse le Christ comme celui qui nous illumine, comme celui qui nous donne sens. Et ne nous habituons pas à la grâce. Mais redécouvrons toujours la grâce de Dieu comme une grâce, comme un cadeau. Soyons toujours émerveillés par ce que Dieu fait et par la grâce de Dieu. Ne nous habituons pas et ne retombons pas dans une routine de la vie chrétienne, mais sachons renouveler notre foi quotidiennement. Et deuxièmement, nous qui avons été éclairés, eh bien, il nous faut apprendre à vivre d'une manière effectivement qui donne envie. Apprendre à vivre d'une manière, à être des témoins de cette lumière. Donc à vivre dans l'espérance, à vivre avec confiance. Confiance non pas dans l'avenir. Vous savez, il y a des gens qui disent « je suis optimiste ». Mais optimiste en quoi non pas avoir confiance dans l'avenir, ça veut dire quoi avoir confiance en l'avenir? Il faut avoir confiance en Dieu. En Dieu qui est le Dieu de l'avenir. Ce n'est pas la même chose. Il faut avoir foi. Non pas avoir foi en notre foi. Mais avoir foi en Dieu. Hein? Nous n'avons pas foi en notre foi. Nous avons foi en Dieu, au Dieu vivant qui agit. Voyez? Donc, vivons comme des croyants. Et vivre en croyant, eh bien, c'est vivre avec ces vertus que l'apôtre Paul nous rappelle, l'amour vécu, la foi et l'espérance. Oui, précisément, frères et sœurs, soyons en parole et aussi dans notre façon de vivre, des témoins de l'espérance qui nous habite. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour l'espérance que tu as mise dans notre cœur. Cette espérance qui est ferme, cette espérance qui repose sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous donnes, qui renouvelle notre cœur, qui nous fait être des témoins de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as illuminés. Nous ne méritions rien. Mais tu nous as donné la foi, tu nous as donné de croire en Jésus. Merci d'avoir illuminé notre vie, Seigneur. Merci de nous avoir délivrés de l'absurde d'une vie sans Christ. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Et Seigneur, notre Dieu, nous te prions de nous donner, de toujours vivre dans l'espérance, de toujours vivre comme des hommes et des femmes et des jeunes qui témoignent de l'espérance. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier pour notre monde. Ce monde, tu le connais, tu sais comment il vit, mais nous savons que tu aimes ce monde, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te demandons de sauver encore, de sauver, d'agir par ton esprit, d'agir par ton esprit, éclaire tous ceux qui te cherchent, ceux qui sont en cheminement, donne-leur de découvrir Jésus-Christ, ceux qui sont loin de toi, interpelle-les d'une manière ou d'une autre, Seigneur, par des rêves, par des visions, par des miracles, par des signes, par ta parole prêchée. Oui, Seigneur, agis, interpelle, pour que beaucoup d'hommes et de femmes découvrent Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle soit un témoin vivant de l'espérance. Je te prie pour les responsables, pour les pasteurs, pour les anciens, pour chaque membre, que tu nous donnes véritablement d'être un porteur et un témoin de l'espérance qui nous habite. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.